Bonjour à tous. Alors, le mois dernier, je vous avais parlé des différents curés de Notre-Dame des Victoires depuis que l'Église est devenue Église paroissiale à la fin du XVIIIe siècle. Alors, je vais continuer avec un curé particulièrement actif. Je vous en avais un petit peu parlé le mois dernier, c'est l'abbé Chevaujon. Alors lui, il arrive, le pauvre, son ministère va commencer très très durement parce que c'était en 1872 et il y avait une année qui s'était écoulée depuis la commune. Et l'Église en gardait encore des traces très douloureuses. Alors le pillage de l'Église avait été pratiqué avec une férocité inouïe. Tout le trésor de l'Église avait disparu. Et en se retirant, les communards avaient laissé le sanctuaire dans le plus épouvantable état qui se puisse imaginer. Il n'y avait plus un seul objet de culte, plus le moindre ornement. Les lampes, les chandeliers, les chœurs, les croix d'honneur, tout avait disparu. Les autels et les confessionnaux étaient renversés. Des tabernacles et des reliquaires brisés gisaient à terre, pêle-mêle. Je ne sais pas si on se rend bien compte, parce que là, on voit l'église, elle est belle, les autels sont beaux. Imaginez qu'il n'y ait plus rien et que tout soit par terre. Les pierres avaient été décellées des caveaux qui montraient leur ouverture béante. Parce que dans les chapelles, avant, il y avait des caveaux familiaux. Les gens se faisaient enterrer dans les chapelles. Alors la famille la plus célèbre, c'était dans la chapelle de Notre-Dame des Douleurs. C'était la famille du compositeur Lully, le compositeur sous Louis XIV. Voilà. Tout était arraché. De tous les côtés, de larges dalles arrachées au sol indiquaient la place des fouilles qu'on avait pratiquées dans l'espérance de trouver des trésors. Trois choses cependant furent préservées. L'église en elle-même, la statue et les titres de l'archiconfrérie, c'est-à-dire tous les registres. Miraculeusement, ils ont échappé à la destruction. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors l'église en elle-même, elle a échappé à la destruction parce que des tonneaux de pétrole avaient été amenés dans la cour de la mairie et un vaste incendie devait la consumer. Alors avec l'église, il y avait la mairie qui est attenante, l'établissement du timbre qui est dans la rue, la bourse, la Banque de France et plusieurs autres établissements. Alors la statue de Notre-Dame des Victoires, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le rappeler quand même. Elle a été sauvée providentiellement par M. Jacques Klibman, qui était citoyen américain et juif converti. Voilà dans quel état est l'Église quand l'abbé Chevaujon arrive pour prendre son ministère de curé. Alors, il va être actif très rapidement. Et 2 mois après son installation, il envoie une lettre aux membres de l'archiconfrérie. « Laissez-moi, écrivait-il, vous confier une tristesse et faire pour la première fois un appel à votre pieuse générosité. Dans cette église bénie de Notre-Dame des Victoires, les profanateurs ont laissé de leur passage des traces qu'il nous faut voir chaque jour et que nous ne pouvons, hélas, faire disparaître faute de ressources. Les magnifiques couronnes données par Pie IX ont été emportées. La chasse de Sainte-Aurélie est détruite. Le devant de l'autel où elle reposait n'a plus pour parure qu'un drap blanc. La pierre qui recouvre les restes du vénérable fondateur de l'archiconfrérie est mutilée. Les chiffres de Marie, vrais reliquaires, vrais trésors chargés de croix d'honneur, qui brillait aux 2 côtés de la chapelle, n'existe plus. La légende qui se déroule le long de l'église, composée de chœurs, donnée par la piété des pèlerins, est interrompue. Alors, lui, il appelle ça légende, vous savez, ce sont les litanies qui courent tout le long de la nef, là, le long des corniches, ce sont les litanies de Lorette. Alors, en divers endroits, ça c'est pour la corniche. De toutes parts, sur les murs, ce sont des restes ou des débris qui attristent le regard. Pour réparer de tels désastres, chers associés, il nous faut votre concours. Vous qui aimez Notre-Dame des Victoires, son sanctuaire, refuserez-nous de nous venir en aide dans une si douloureuse circonstance? Nous voudrions refaire, et avec plus d'éclat encore, tout ce que les profanations impies ont ainsi enlevé ou cherché à détruire. Quelle joie ce sera pour nous, et comme nous vous bénissons, chers associés, le jour où nous pourrons, à la gloire de Notre-Dame des Victoires, achever cette réparation. Alors ça a été assez rapide, je pense que il y avait les membres de l'archiconférie qui se sont mobilisés tout de suite, et pas seulement que les membres de l'archiconférie. Voilà. Un mois après, il remerciait les fidèles qui avaient répondu à sa demande, mais il faisait en même temps un second appel. Plusieurs associés nous ont déjà envoyé leur offrande pour la réparation des dévastations sacrilèges commises dans notre chère Église. Nous les en remercions du fond du cœur, mais en même temps, nous faisons un appel plus pressant encore, car nous n'avons pas pu attendre. Nous nous sommes mis immédiatement à l'œuvre. Des travaux considérables sont commencés, d'autres sont à l'étude. Il nous tarde de voir disparaître entièrement de ce sanctuaire béni la trace de si mauvais jours. Pour comprendre comment les ressources nous manquent, il faut savoir que les spoliateurs n'ont pas seulement pris les objets précieux, mais encore des valeurs importantes dont on n'a pu retrouver qu'une très faible partie. D'autre part, il y a 2 ans, immédiatement avant la guerre, le conseil de fabrique avait fait l'acquisition d'un immeuble destiné à servir de presbytère au clergé de la paroisse et à contracter ainsi de tels engagements qu'il lui est impossible dans la circonstance de nous venir en aide. Nous ne pouvons donc compter que sur le concours de nos pieux et généreux associés. Les donateurs auront un mémento particulier aux messes de l'archiconfrérie et à la recommandation générale des réunions du dimanche pour les bienfaiteurs de l'œuvre. Nous ne voulons ici, comme en tout le reste, que la plus grande gloire de Dieu et de la Très Sainte Vierge. Alors beaucoup, à la suite de ce second appel, s'empressèrent, heureux, de prendre part à l'œuvre de réparation. « Monsieur l'abbé, disait une personne, ma maison a été brûlée pendant la guerre. Je n'ai reçu comme indemnité que les remises de contribution de l'année. Les voici pour réparer le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires. » Une famille venant d'Égypte déposait en reconnaissance à l'autel de Marie un médaillon en or garni de turquoise. Le donateur se retira en disant « Je dois tant à la Sainte Vierge ». Un militaire, chef d'escadron, a porté sa croix de la Légion d'honneur. Elle fut placée à l'entrée de la sacristie, encadrée de ces mots « Reconnaissance à Marie, 1871 ». La paroisse de Palaiseau offrait avec un ex-voto de reconnaissance la somme de 60 francs pour les réparations à faire à Notre-Dame des Victoires. Et au mois de janvier 1873, le père Chevaujon relance encore un appel. Laissez-moi maintenant encore faire un nouvel appel à votre pieuse générosité. Nous travaillons depuis 2 mois à la réparation des dévastations sacrilèges commises dans notre chère Église. Bien des choses ont été faites, mais les ressources nous font défaut et nous recourons encore à vous. Vous donnez beaucoup durant ces jours dans la distribution de vos dons. Ne pourriez-vous pas faire la part de la Sainte Vierge? Cette part, je vous assure, serait reçue avec reconnaissance. L'œuvre de réparation est bien sûr été soutenue vigoureusement par la prière. Chaque dimanche, on priait pour la réparation des dégâts et pour la conversion des profanateurs. Il y eut, dès le début de l'année 1873, des grâces de toutes sortes. Un soir, une personne fit remettre à monsieur le curé un petit paquet soigneusement enveloppé et elle disparut sans se faire connaître. C'était le petit tombeau renfermant les reliques déposées dans le grand autel au jour de sa consécration. Ce petit tombeau contenait, avec les reliques parfaitement conservées, les grains d'encens prescrits par la liturgie et la feuille de parchemin authentique de la consécration signée de la main de Monseigneur d'Arbois. Et quelques jours après, une main inconnue rapportait des cœurs. Il y a même une lettre qui a été envoyée par une personne qui a restitué un ex-voto volé pendant la Commune. Alors voici ce qu'il écrit. Je viens remettre entre vos mains un cœur offert autrefois à la Sainte Vierge et volé par la Commune. Par un concours de circonstances trop longues et trop difficiles à vous raconter, je l'ai en ma possession depuis 5 années, donc c'était un petit peu plus tard. Mon devoir tout tracé était de le rendre. Un peu superstitieux par nature, il me semblait qu'il me porterait bonheur et je remettais de jour en jour sa restitution à l'autel de la Sainte Vierge. Je ne veux plus hésiter, quoi qu'il m'en coûte de m'en séparer. Voulez-vous, monsieur le curé, en l'offrant de nouveau à notre bonne mère, dire une prière pour moi? Je suis malade, la marche m'est pénible, mais la plus grande grâce à demander serait la santé. J'ai confiance en Notre-Dame des Victoires et une prière dite au pied de l'autel de cette bonne mère peut obtenir ma guérison avec mes remerciements les plus sincères. Voyez, il n'est jamais trop tard. Alors, dans les restaurations, on revit avec joie les lettres initiales du nom de Marie qui avait disparu pendant le saccage, composé par tous les cœurs apportés. Des restitutions fréquentes avaient lieu et à ces restitutions s'ajoutaient des offrandes de toutes sortes. Le premier vendredi du carême, on vit un nouveau chemin de croix, c'est celui que vous voyez actuellement dans la nef, fait en émeu, encadré de bronze doré, destiné à remplacer l'ancien qui avait été mutilé. Deux ex-voto furent placés aux fenêtres des tribunes, à droite et à gauche de l'autel de la Sainte Vierge. Ce sont deux trophées en bronze, celui de droite est le siège de Paris, et à gauche, la guerre civile de Paris et la Commune. Ces ex-voto sont encadrés par plus de 800 cœurs. Alors, au mois de mai, les reliques de Sainte Aurélie, offertes par Grégoire XVI en 1842, furent replacées sous l'autel. Une magnifique châsse reçut les reliques. C'est la chasse que l'on peut voir actuellement. Et à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, l'abbé Chevaugeon inaugura une nouvelle chapelle dédiée donc au Sacré-Cœur. C'est la chapelle actuelle qui est entre la chapelle Sainte-Anne et la chapelle Saint-Joseph. Alors cette chapelle, elle est plus riche et plus décorée que l'ancienne. Mais les pensées du Père se portait aussi depuis longtemps sur la tombe de Monsieur Desgenettes, qui avait été saccagée durant le pillage. Alors le cercueil qui avait été ouvert fut replacé sous la table de communion, c'est-à-dire là, sous la marche, recouverte d'un nouveau marbre blanc, et la pierre tumulaire, c'est la pierre qui est là, au pied de l'autel, qui avait été également très dégradée. Il n'était plus possible de lire l'épitaphe. Alors, peu après son installation, Monsieur le curé avait ouvert une liste de souscriptions. Il s'inscrivit le premier avec le clergé. Son désir était de remplacer la pierre tumulaire par un travail semblable à celui d'autrefois. Un ouvrier fut chargé de reproduire identiquement la belle inscription venue de Rome. Elle est rédigée en latin, mais vous pouvez la lire en français sur le pilier situé à gauche de la chapelle. Alors je vous la lis quand même. Ici, au pied de l'autel de Marie, Mère de Dieu, où il avait coutume de prier et d'offrir le Saint Sacrifice, repose dans la paix du Seigneur Charles, Éléonore, Dufriche, Desgenettes, pendant 28 années, pasteur vigilant de cette paroisse de Notre-Dame des Victoires, protecteur actif et généreux de toutes les bonnes œuvres, fondateur par une inspiration du ciel de l'archiconfrérie du cœur immaculé de Marie pour ramener dans les voies du salut les pécheurs égarés. Grâce aux bénédictions de Dieu et à la protection de la Sainte Vierge, il vit cette œuvre heureusement répandue dans tout l'univers. Dans une vieillesse avancée, il s'en alla plein de joie vers le Seigneur le 25e jour d'avril, en l'an de grâce 1860, à l'âge de 82 ans. Ô âme forte et pieusement dévouée, puissent vos prières obtenir du ciel à ce siècle de défaillance. Beaucoup d'âmes qui vous ressemblent. Je pense qu'il doit être content parce que c'est ce qu'il avait désiré. Depuis de nombreuses années avant sa mort, il désirait reposer au pied de la Sainte Vierge. Alors tout fut terminé pendant la première quinzaine de juillet 1873. Mais les travaux de M. Chevaugeon ne s'arrêtèrent pas là. La décoration de l'église fut une des grandes œuvres de son ministère. Les sous-sols reçurent des améliorations qui en doublèrent l'importance. Dans le chœur, des vitraux racontant les grands mystères de la vie de la Sainte Vierge remplacèrent les fenêtres anciennes. Le long de la nef et du chœur circulait tout un ingénieux système luminaire. Des innombrables ex-voto tapissèrent les murs de l'église et les chapelles furent entièrement refaites. Le maître-autel, donc qui est au fond du chœur, furent réédifiés et consacrés par Mgr Maignan le 9 juillet 1879. Et on peut également mentionner les couronnes de la Vierge et de l'Enfant Jésus, l'ostensoir pour les fêtes du Saint-Sacrement, qui furent composés avec les bijoux offerts à Notre-Dame des Victoires. Puis les vitrines, renfermant diverses décorations militaires. Alors, sous son ministère, outre les travaux, il y eut un grand pèlerinage à Lourdes en octobre 1872 avec l'offrande d'une bannière destinée à être placée dans la basilique de l'Immaculée Conception. Alors, je ne suis pas allée à Lourdes depuis fort longtemps, mais je pense que la bannière doit toujours être là-bas, puisqu'il y a une chapelle qui est dédiée à Notre-Dame des Victoires. Cette bannière était une offrande des membres de l'archiconfrérie, suspendue par un cordon d'or à un bâton doré surmonté d'une croix. Cette bannière représente l'image de Notre-Dame des Victoires. La robe de la Sainte Vierge est d'un rose délicat semée d'or, celle de l'enfant Jésus, d'un rouge tendre. On lit au-dessus l'image de gros, en grosses lettres brodées d'or, Notre-Dame des Victoires, et au-dessus de l'image, Paris. Le bas de la bannière dentelé, comme les oriflammes, est orné au milieu des armes de l'église Notre-Dame des Victoires, entouré de chaque côté de lys et de roses brodées en or. Un autre travail, c'est en 1873 toujours, une souscription fut ouverte pour la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et M. Chauvaugeon désigna le bureau de l'archiconfrérie pour recevoir les dons des fidèles. Et de là naquit un lien étroit entre les deux sanctuaires. Le mois de mai nous conduit au Sacré-Cœur, avait affirmé l'abbé Chauvaugeon dès l'ouverture de la chapelle provisoire, et rappelant que l'on va à Jésus par Marie. Il avait accentué son propos en disant « La dévotion au cœur de Jésus ne peut se séparer de la dévotion au cœur de Marie. L'un et l'autre se confondent. » Alors, en 1886 et 1888, il eut le bonheur de célébrer le double cinquantenaire de la pieuse association fondée par l'abbé Desgenettes en 1836 et de son érection par Grégoire XVI en archiconfrérie universelle en 1838. En 1895, il publia avec la collaboration de l'abbé Ferrand une édition refondue du manuel de l'archiconfrérie, où le texte inspiré de l'auteur, donc l'abbé Desgenettes, se complète de sa biographie et des événements survenus depuis sa mort. À cette date, on comptait 1 127 513 inscriptions individuelles et l'effectif des confréries agréées dans le monde atteignait le total de 18 850. Représentant environ, si on groupe tout, 30 millions d'associés. C'est pas mal quand même. Alors cette publication fut le suprême effort d'une santé déclinante. En 1896, après avoir lutté contre la maladie, l'abbé Chauvaugeon laissa place à l'abbé Rateau. Ce nouveau curé, que Benoît XV devait élever à la prélature, et que la maladie emporterait en 1918, apportait à Notre-Dame des Victoires une piété profonde et une grande bonté. Très attentif aux intérêts de sa paroisse, il fonda deux patronages sous la protection de Jeanne d'Arc. Il intensifia la vie intérieure et l'action rayonnante de l'archiconfrérie. En 1900, il avait obtenu du pape Léon XIII que l'archiconfrérie fut inscrite au calendrier de ses féries solennelles, la fête de Notre-Dame auxiliatrice et la révélation de la médaille miraculeuse. En 1904, afin de commémorer la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le cardinal Richard, qui était l'archevêque de Paris à cette époque, inauguré à sa demande dans l'église Notre-Dame des Victoires l'union de perpétuelle reconnaissance à Marie pour les bienfaits dont elle a comblé ses enfants sous le signe de son cœur immaculé à Notre-Dame des Victoires et à Lourdes. Et au mois d'août 1906, le cardinal Richard autorisait l'abbé Rateau à solliciter du pape Pie X en vue de hâter la consécration du monde au Sacré-Cœur de Jésus, la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. Et quand la guerre éclata, cette supplique, soutenue dans toutes les nations et par un grand nombre d'évêques, avait recueilli 800 000 signatures. Alors lui aussi, Laberato, il va entreprendre des travaux. Alors il y a une nouvelle tribune qui fut construite grâce à un encorbellement orné de sculptures fines. C'est la tribune de l'orgue. Les orgues furent restaurés et augmentés de plusieurs jeux. L'électricité fut installée. Et un autre travail s'imposait, le nettoyage complet de l'église. Mais oui, avec le temps, la fumée de nombreux cierges qui brûlent sans cesse autour de l'autel de la Sainte Vierge avait fini par enduire d'une suie épaisse les murs et les ornementations de l'édifice. Alors à ce sujet, je le dis, c'est une petite parenthèse que je fais parce que là je vous parle au début du XXe siècle. Or, il faut savoir qu'il n'y a aucune restauration importante qui a été faite depuis. Et là, une souscription est lancée justement pour la restauration de la chapelle de la Vierge. Et vous avez au fond une urne avec écran, ou si vous voulez, vous pouvez faire un don. L'église Notre-Dame des Victoires vous remercie par avance. Voilà. Alors j'en reviens à mon récit. Les cartouches et les arceaux des travers de la nef, les motifs de décoration des pilastres, ainsi que les ornements de la coupole réapparurent avec tous leurs détails artistiques. Toutes les chapelles furent restaurées et les ornementations renouvelées. La statue de Notre-Dame des Victoires fut blanchie. Le jour où ça va lui arriver, elle va être très contente parce que ça n'a pas été fait depuis plus de 100 ans. Le rétable et le couronnement de l'autel furent aussi nettoyés. Et pour terminer, le dallage de la nef principale fut renouvelé et tous les vitraux furent nettoyés et restaurés. Alors, un des curés de Paris disait avec raison à l'abbé Chevaujon, à peine installé ici, « Vivez donc heureux et respirez à l'aise, mon cher curé, dans cette atmosphère de grâce. Soyez au jour le jour la voix qui annonce la main, qui annonce la main qui distribue, le cœur qui reçoit et accumule les richesses de la miséricorde. » Alors, je ne veux pas vous raconter la vie de tous les successeurs. D'ailleurs, tous n'ont pas eu des travaux énormes à faire dans leur ministère. Mais l'actuel recteur, donc, s'est attelé à cette tâche de restaurer la chapelle de la Vierge, y compris les tableaux qui sont là et les tableaux qui sont dans le cœur. Je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi. Merci.